VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 18h30 GMT, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 23 mars 2017. John Lydon en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington. Au sommaire ce soir, Burkina Faso, Haruna Diko, membre du groupe djihadiste Ansarul Islam, a été abattu par les forces de sécurité. En RCA, des affrontements entre groupes armés ont fait une vingtaine de morts dans le sud-est du pays. L'attaque de Londres revendiquée par le groupe État islamique, l'assaillant est identifié comme Khalid Massoud, connu des services de renseignement. La bataille pour l'abrogation de l'assurance maladie se poursuit aux États-Unis. Donald Trump essaye de tout faire pour éviter son échec. Et puis, retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. De nouveaux combats signalés dans l'est de la RCA. Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées, dont des affrontements à Bakouma. Ces combats ont opposé des miliciens anti-Balaka à des rebelles de l'UPC, Union pour la paix en Centrafrique. Correspondance à Bangui de Freeman Sipila.
C'est la première fois que les deux groupes rivaux s'affrontent dans la préfecture du Mbomou. Lundi aux premières heures de la matinée, une colonne de miliciens anti-Balaka lourdement armée attaque des positions de l'UPC, une faction dissidente de la rébellion ex-Séléka. Après plusieurs heures de combat, la situation tourne en faveur des anti-Balaka. L'UPC perd le contrôle de Bakouma, point stratégique et ville minière. Jusqu'à ce jeudi, aucun bilan officiel n'était encore disponible, mais des sources locales parlent d'une vingtaine de personnes tuées et plusieurs autres blessées. Malgré un calme apparent observé depuis hier, une partie des habitants se cache encore dans la brousse. Les affrontements entre les deux groupes armés se sont poursuivis ce mercredi dans la ville de Nzako, à une soixantaine de kilomètres de Bakouma. Ces heures surviennent alors que des négociations sous l'égide de la communauté internationale sont en cours entre les différents mouvements armés du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la police a annoncé la mort d'un certain Haruna Diko, membre du groupe Ansarul Islam, qui a revendiqué plusieurs attaques dans le nord du pays. Il serait apparenté à Malam Ibrahim Diko, chef du groupe djihadiste très actif dans la province du Soum, près de la frontière avec le Mali. Le point avec Bagassi Koura.
Selon des informations, Haruna Diko a été abattu mercredi nuit sur une colline de Petega, un village situé à environ 25 km de Djibo dans le nord du pays. Il a été tué au cours d'une opération des forces de sécurité. Opération menée après une attaque dimanche contre une unité mobile de gendarmes. Mercredi nuit, 18 personnes qui seraient des hommes de main de Haruna Diko ont été interpellées et des armes récupérées. Selon une source sécuritaire dans le Nord, il s'agit d'un membre du groupe Ansarul Islam qui a revendiqué plusieurs attaques sanglantes dans le nord du Burkina. Malam Ibrahim Diko, le chef du groupe Ansarul Islam, lui, reste toujours recherché par les forces de sécurité.
Le président de l'Assemblée nationale française, Claude Barthelone, a déclaré aujourd'hui à Ouagadougou que la France aidera le peuple burkinabé à connaître la vérité sur l'affaire Thomas Sankara, l'ancien président tué lors d'un putsch en 1997. En octobre dernier, la justice burkinabé a transmis une commission rogatoire à la justice française pour l'audition d'un certain nombre de personnes, mais aussi pour demander la levée du secret défense pour déterminer le rôle éventuel de la France dans cette affaire. Un ressortissant français a été enlevé jeudi matin près d'Abéché, dans l'est du Tchad, a annoncé une source militaire française à quelques journalistes. Il s'agit d'un civil, a précisé cette source, indiquant que tous les moyens sont mobilisés pour obtenir sa libération. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé l'enlèvement sans donner aucun détail supplémentaire. Le pape François a reçu jeudi en audience le président camerounais Paul Biya et les deux hommes ont salué le respect réciproque entre les divers groupes religieux au Cameroun. Le Vatican et le Cameroun qui ont rappelé l'importance du respect des droits de l'homme et des droits des minorités ont également évoqué des sujets internationaux, en particulier les défis actuels qu'affronte la région. L'épouse rwando-britannique d'un membre de l'opposition rwandaise en exil a comparu jeudi devant un tribunal de Kigali, accusée notamment de formation d'un groupe armé illégal. Violette Uwamahoro a rejeté toutes les charges retenues contre elle. La justice rwandaise a décidé son maintien en détention jusqu'à l'ouverture de son procès à une date indéterminée. En Tanzanie, l'autolé provoqué par l'intrusion du gouverneur de Dar es Salaam dans une radio-télévision privée fait une victime dans le camp même du pouvoir. Le président John Magufuli a renvoyé jeudi son ministre de l'Information qui demandait des sanctions contre le gouverneur. Gabi Dorsil nous en dit plus.
Tout a commencé quand le jeune gouverneur Paul Makonda, réputé proche du chef de l'État, a débarqué vendredi soir en compagnie de 6 policiers armés dans les locaux de Clouds FM Media Group. Il exigeait la diffusion d'une vidéo où une femme accuse un célèbre pasteur, adversaire de Makonda, d'être le père de son enfant né hors des liens du mariage, ce que la station a refusé de faire. La presse et la société civile ont vivement protesté contre cette intrusion jugée illégale, mais le président Magufuli a quand même soutenu son gouverneur en poste depuis un an. Pour Cléa Kanzriber de Reporters sans frontières, cet incident s'inscrit dans le cadre d'une tendance du gouvernement tanzanien à violer la liberté de la presse et le droit à la parole. Plusieurs radios ont en effet été suspendues en quelques mois et une dizaine de personnes poursuivies pour des commentaires critiques ou ironiques sur les réseaux sociaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque hier au cœur de Londres. L'attentat a fait 4 morts, dont l'assaillant à proximité du Parlement britannique. Une quarantaine de personnes sont également blessées. Le point avec Morgan Guiriek.
L'opération a été menée en réponse à l'appel à frapper les pays de la coalition internationale anti-djihadiste, a affirmé Hamak, l'agence de propagande du groupe État islamique. Au lendemain de l'attaque la plus meurtrière depuis 12 ans au Royaume-Uni, la Chambre des communes a observé une minute de silence. « Nous n'avons pas peur », a clamé la première ministre Theresa May en s'adressant aux élus. La police a procédé à 8 arrestations et d'après Theresa May, l'auteur de l'attentat, abattu mercredi, né au Royaume-Uni, était un extrémiste connu des services de renseignement. L'homme barbu, vêtu de noir, a lancé sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster qui enjambe la Tamise, tuant 2 personnes, un homme d'une 50aine d'années et une femme d'une 40aine d'années, et en blessant plusieurs dizaines de personnes. Il a ensuite poignardé à mort un policier dans la cour du Parlement.
Ajoutons que l'auteur de cet attentat mercredi à Londres a été identifié. Il s'appelle Khalid Massoud, 52 ans, né dans le sud-est de l'Angleterre et ne faisait l'objet d'aucune enquête en cours. Il avait toutefois été condamné à plusieurs reprises, notamment pour possession d'armes, a précisé la police londonienne. Le président Donald Trump a affirmé jeudi qu'un Américain fait partie des 3 personnes qui ont péri dans l'attentat hier à Londres. Ici aux États-Unis, Donald Trump poursuit ses négociations pour éviter l'échec de la première grande loi de son mandat. Le vote pour le remplacement de l'assurance maladie ou Obamacare déchire la majorité. Claire Morin-Gibourg.
Promesse de campagne de Donald Trump, l'abrogation de l'Obamacare est plus difficile que prévu. Le vote est prévu ce soir à la Chambre des représentants. L'opposition vient de la minorité démocrate, des républicains modérés et d'un groupe plus intransigeant d'ultra-conservateurs. Pour certains républicains modérés, abroger Obamacare est inacceptable car des millions de personnes vont payer plus cher leur assurance ou perdre leur couverture santé. Donald Trump a menacé ces rebelles républicains des conséquences que pourrait avoir leur vote. L'Affordable Care Act, malgré son coût pour les finances publiques, a permis de réduire le nombre de personnes vivant sans assurance maladie, soit plus de 20 millions d'Américains. D'ailleurs, l'ancien président Barack Obama a rompu le silence aujourd'hui en mettant en garde les élus contre des changements qui seraient néfastes pour les Américains.
Les États-Unis ont annoncé mardi l'interdiction à partir de samedi des ordinateurs portables, des tablettes et d'autres appareils électroniques dans les cabines d'avion sur les vols directs en provenance de 7 pays. Le Royaume-Uni a pris une décision similaire visant 6 pays. Le New York Times et la chaîne ABC révèlent que les agents américains ont appris que les djihadistes du groupe État islamique étaient en train de concevoir une bombe pouvant loger dans l'espace prévu pour la batterie d'un ordinateur portable. La Turquie a convoqué mercredi le chargé d'affaires de Moscou à Ankara après la mort d'un soldat turc tué par des tirs provenant d'une zone contrôlée par les milices kurdes où sont également présents des militaires russes, a indiqué jeudi le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères. Un ex-député russe, Denis Voronengov, réfugié en Ukraine et recherché dans son pays pour escroquerie, a été assassiné jeudi en plein centre de Kiev. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
La Côte d'Ivoire annonce le renforcement de ses contrôles sur la viande importée du Brésil, pays secoué par un scandale de viande avariée. 20 pays ont fermé partiellement ou totalement cette semaine leurs portes à la viande brésilienne. Le géant sud-américain est le premier exportateur mondial de viande bovine et de volaille, un secteur qui lui a rapporté l'an dernier plus de 13 milliards de dollars. Bruno Conné, porte-parole du gouvernement ivoirien, a néanmoins rassuré qu'à la date d'aujourd'hui, tous les contrôles qui étaient faits n'indiquaient pas de problème. Rencontre hier entre le président camerounais et le patronat italien à l'occasion d'une visite d'État de Paul Biya à Rome, à l'invitation de son homologue italien Sergio Mattarella. Au premier plan de ce déplacement, la coopération entre le Cameroun et l'Italie, en particulier dans le domaine économique. Le président Biya a vanté l'économie camerounaise et rassuré les investisseurs qu'il pouvait rapatrier les bénéfices sans entrave. Le programme SAP Skills for Africa démarre aujourd'hui à Ben Guerir, au Maroc, pour une durée de 3 mois. L'initiative, tenue pour la 2e année consécutive en Afrique francophone, vise à former de jeunes diplômés sans emploi et à leur offrir des débouchés auprès des organisations partenaires, dont la fondation OCP, l'université polytechnique Mohamed VI et Universap. Cette année, une forte participation féminine a été noté.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Série de matchs amicaux en football en Afrique.
Alors que 6 équipes disputent le tour préliminaire des éliminatoires pour la CAN 2019, d'autres préparent la phase de poule qui débutera en juin, ainsi que la suite des qualifications pour le Mondial 2018. En match amical aujourd'hui à Machakos, le Kenya a fait match nul, un but partout face à l'Ouganda. Le Nigeria affronte le Sénégal à Cannon's Park, c'est en Angleterre tout à l'heure. À suivre demain, la Libye contre le Togo à Alexandrie, à Krasnodar, la Russie qui affronte la Côte d'Ivoire, le Bénin en déplacement à Nouakchott face à la Mauritanie, à Monastir, la Tunisie qui accueille le Cameroun, le Burkina Faso en déplacement à Marrakech pour affronter le Maroc, et puis Guinée-Gabon, ce sera au Havre en France.
Course mondiale 2018, les États-Unis n'ont plus le choix.
Après leur catastrophique mois de novembre qui a coûté son poste à Jürgen Klinsmann, les États-Unis n'ont plus le droit à l'erreur contre le Honduras demain et le Panama mardi prochain. Crucifié en fin de match par le Mexique le 11 novembre, puis humilié au Costa Rica, Team USA pointe à la dernière place du 5e et dernier tour de qualification de la zone CONCACAF.
En Europe, le duel à distance se poursuit entre l'Espagne et l'Italie.
Oui, l'Espagne et l'Italie à égalité de points dans le groupe G vont tenter de ne pas perdre du terrain demain lors de la 5e journée de qualification de la zone Europe pour le Mondial 2018. La Roja, qui devance la Nationale et seulement grâce à une meilleure différence de but, accueillera Israël vendredi, tandis que l'Italie recevra l'Albanie dans le même temps. Dans le groupe D et I, deux chocs sont au programme, Pays de Galles et Croatie-Ukraine.
Pas de Super League en Europe.
Oui, le directeur de compétition de l'UEFA, Giorgio Marchetti, a rejeté l'idée d'une Super League européenne réservée à certains grands clubs, tout en reconnaissant que le format de la Ligue des Champions pourrait évoluer à partir de 2021. L'homme des tirages au sort de l'UEFA a reconnu que les compétitions européennes, et notamment la C1, doivent changer afin de rester les plus grandes compétitions de clubs au monde.
Et puis NBA, championnat de basket nord-américain.
Le champion en titre Cleveland a subi un nouveau revers inquiétant en s'inclinant nettement à Denver, 113 à 126. LeBron James et ses coéquipiers ont perdu 6 de leurs 10 derniers matchs. Et puis Boston a battu Indiana, 109 à 100.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour. Et on commence par la Mauritanie, où le président Mohamed Ould Abdelaziz a annoncé hier que le projet de révision constitutionnelle sera soumis à un référendum. Adopté par l'Assemblée nationale, ce projet est rejeté par le Sénat, suscitant une situation politique tendue dans le pays. Suivons l'analyse de Mohamed Fall Omer, journaliste mauritanien.
Le rejet qu'il y a eu, c'est le rejet de la part de la Chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. Et je crois que c'est tout à fait normal et tout à fait attendu, même si on a fait semblant ces derniers temps d'oublier que l'une des propositions phares du projet constitutionnel proposé, c'est la suppression du Sénat. Et que ça avait été suivi, quand ça a été annoncé en mai 2016 par le président de la République, ça a été suivi par une campagne du gouvernement pour expliquer ce qu'il en est et que ces explications ont occasionné quelques dérapages que les sénateurs ont considérés être des insultes.
À votre avis, quelle issue voyez-vous à cette impasse?
En fait, je ne vois pas une issue. Elle a été décidée, elle a été annoncée hier par le président de la République. C'est que il va passer outre ce refus d'entériner le projet et ils vont directement se diriger vers le référendum en suivant ce que lui permet l'article 38 de la Constitution. Donc, il lui permet effectivement de s'adresser directement au peuple et d'engager un processus de référendum. Et c'est ce qu'il va faire dans les trois mois qui viennent. Maintenant, il va falloir préparer la Commission nationale électorale. Il va falloir préparer toute la logistique qui suit.
Croyez-vous que les Mauritaniens vont voter pour ou contre le projet?
En général, notre opposition, notre classe politique est plus habituée au boycott qu'à la participation. Surtout que maintenant, elle peut se dire que c'est un projet qui ne bénéficie pas d'un grand soutien populaire et donc que ça ne coûte rien, ça ne demande rien de dire nous boycottons. Donc c'est le taux de participation qui sera, disons, l'élément révélateur dans les futurs référendums.
Comment voyez-vous un gouvernement sans Sénat en Mauritanie?
Ça ne pose aucun problème à mon avis, surtout qu'il y a dans le projet constitutionnel nouveau, il y a la création des conseils régionaux. C'est-à-dire que c'est pratiquement des parlements locaux qui vont un peu pallier ou remplacer, disons, le rôle du Sénat, qui vont devenir justement le lieu où les velléités locales, où les souhaits locaux, où les ambitions locales vont s'exprimer parce qu'ils seront concernés par le développement des régions.
Mohamed Fall Omer rejoint à Nouakchott par Blanche Sanou.
Dans Washington Forum, ce jeudi 23 mars, on décrypte la situation tendue dans le Kasaï, cette région du centre de la République démocratique du Congo. Les violences y ont fait au moins 400 morts depuis septembre 2016 et plusieurs vidéos montrant des militaires congolais abattre des civils enveniment la situation. Dans la même province, deux experts onusiens et leurs quatre accompagnateurs congolais ont été enlevés depuis le 11 mars et on est toujours sans nouvelles. Alors que se passe-t-il réellement au Kasaï? Comment Kinshasa gère-t-il ce dossier épineux? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
L'Association des Spiritains du Congo organise dans le nord du Congo-Brazzaville l'éducation des enfants des populations pygmées dans le cadre d'un programme spécial. Près de 5000 enfants suivent ces cours et sont déversés dans le système public officiel après 3 ans. L'UNICEF et l'OPAM soutiennent cette initiative. Notre correspondant Nguela Ngousso s'est rendu dans l'école Ora de Makodi dans le Likwala. Voici son reportage.
Oui, bonjour.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Mkombo Dene.
Tu es en quelle classe?
Ora 3. L'éducation. Oui, bonjour.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Mkombo Dene.
Tu es en quelle classe?
Ora 3. L'éducation. L'âme. Voici maman. Elle enseigne.
C'est à Makodi, à mi-chemin entre les districts de Betou et de Niélé, dans la Likwala, que 179 enfants autochtones suivent les cours dans le cadre de Ora, une éducation spécialisée. Malgré leur âge élevé et leur vie de forêt, les enfants apprennent vite, tel que le témoigne ici Louis Godard Bangabi, directeur de l'école.
Ils s'adaptent facilement, même ça fait déjà 2 ans, j'ai envoyé presque 20 élèves à l'école publique. Ils sont tous admis à l'autre là, à CM1 cette année.
Les élèves suivent les enseignements au ras pour intégrer plus tard le cours moyen du système éducatif officiel du Congo. Jacques Mpika, le chef du village Bakodi, ne cache pas sa satisfaction.
Nous sommes très heureux parce que nos enfants veulent apprendre et ils ont un avenir. Nous serons encore plus contents si on nous construisait ici, à Makodi, une école moderne en matériaux durables. Nous sommes vraiment contents parce qu'il ne s'agit plus de retourner en arrière.
Bernard Bokondo, un enfant autochtone étant passé il y a quelques années dans ses classes au RA, indique que ses frères ont de l'avenir.
Nous voyons que les enfants viennent beaucoup à l'école pour apprendre à lire, à écrire, demain sera les gens comme nous aussi. Et oui, ça là quand même, ça aide quand les enfants allaient aussi ailleurs quand même, ça va aider leurs parents et nous aussi.
Pour retenir les enfants sur place, le PAM a créé une cantine scolaire. Aloïse Robin est le chef du bureau PAM à Bétou.
Chaque mois, par rapport aux demandes donc, des écoles ORA, on fournit les cantines scolaires. C'est 44 à peu près cantines, ce qui représente environ entre 4000 et 5000 enfants, donc à travers tout le département de la Likwala.
L'UNICEF apporte les fournitures scolaires et le matériel nécessaire pour le fonctionnement de l'établissement. De l'argent qu'il faut chaque fois trouver pour accorder une chance à ces enfants congolais, mais marginalisés. De retour de Makodi, Nguela Ngoussou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Un nouveau vaccin bon marché anti-diarrhée fabriqué par un laboratoire indien vient de paraître. D'après les résultats des essais cliniques publiés aujourd'hui, il a été efficace à plus de 66%. Anastasie Tudiech a joint à Niamey, au Niger, le docteur Amadou Maktar Sek, qui a conduit les essais cliniques sur le terrain pour Médecins Sans Frontières.
Ce vaccin contre la diarrhée est un vaccin très important puisque la diarrhée est la deuxième cause de mortalité chez les enfants. Et nous avons aujourd'hui une estimation de 1300 décès d'enfants des suites de la diarrhée aiguë. Et on sait que un tiers de ces diarrhées sont causées par le rotavirus.
Qu'est-ce que le rotavirus ?
C'est un virus responsable de diarrhée sévère qui entraîne une déshydratation qui peut mener, si elle n'est pas correctement prise en charge, à la mort.
L'une des particularités de ce nouveau vaccin, c'est qu'il n'a pas besoin d'être réfrigéré.
Tout à fait. Il s'agit d'un vaccin thermostable. Il n'a pas besoin d'être réfrigéré et maintenu à moins de 8 degrés Celsius. C'est une formulation qui est justement développée par le laboratoire indien. Il nous permet d'avoir ces vaccins qui sont stables à 37 degrés Celsius pendant un an. Et à 40 degrés Celsius, aussi, ils sont encore, on peut les utiliser pendant 6 mois.
Combien coûterait ce vaccin ?
Alors, ce vaccin coûtera moins cher que ceux qui sont déjà sur le marché, même subventionnés. C'est une bonne opportunité pour les pays en voie de développement.
S'il était présélectionné par l'OMS, combien de personnes pourrait-il aider ?
90% de ces décès d'enfants dont on a parlé et qui sont estimés à 450 000 décès d'enfants par an. 90% de ces décès surviennent en Afrique au sud du Sahara. Vous comprendrez aisément que ça pourrait changer la donne pour les enfants les plus vulnérables ici en Afrique au sud du Sahara, mais aussi en Asie du Sud.
Il n'y a aucune contre-indication à ce vaccin ?
Alors, il n'y a pas de contre-indication particulière. Ça va être les mêmes indications que pour les vaccins existants contre le rotavirus. C'est-à-dire que nous allons l'administrer aux enfants donc à partir de 6 semaines. Et c'est un vaccin oral qui se donne en 3 doses à 1 mois d'intervalle. Il peut tout à fait être intégré au programme élargi calendrier de vaccination.
Que faut-il pour que l'OMS l'homologue?
Alors, il faut passer les étapes de la recherche clinique, ce que nous avons déjà fini de démontrer avec ce vaccin BRPV produit par le Serum Institute of India. Et le plus tôt ce vaccin sera qualifié, plus tôt il sera disponible pour les pays en développement et donc pour les enfants qui en ont le plus besoin.
Le docteur Amadou Maktar, c'est Kanyamé, joint par Anastasie Tudiech.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les États-Unis viennent de déployer une batterie d'artillerie en Syrie pour soutenir une offensive des forces démocratiques syriennes près de Raqqa. Selon le docteur Serge Banyongen, chargé de cours à l'Université d'Ottawa, cette démarche vise surtout à prendre part aux discussions et préparer l'après-guerre en Syrie. Il est joint à Ottawa par Arzuma Compaoré.
Il semblerait très bien que le haut commandement américain en ce moment croit fortement que la pression qui est mise sur le groupe islamique, notamment à Raqqa, est en train de payer ses fruits dans l'optique de éradiquer totalement les djihadistes. Donc, dans cette optique-là, les Américains ont jugé bon d'y aller pour vraiment être part à la fois des discussions qui s'y font et en plus, et surtout, préparer l'après-guerre en Syrie. Rappelez-vous que lorsque la Russie avait réussi à réunir à Moscou à la fois l'Iran et la Turquie, c'était vraiment une humiliation aux États-Unis qui n'étaient pas présents. Le sujet peut être assez important pour peser suffisamment sur le conflit. Donc, je pense que c'est un peu un retour ou une volonté de retour dans le théâtre des opérations, mais aussi sur la scène de l'après-guerre.
Quelle est la différence que cela fait d'avoir des troupes au sol?
Il y a toujours eu des troupes au sol. C'est-à-dire que les forces spéciales sont toujours là et leur objectif a tout été d'indiquer les cibles. Parce que même dans les frappes aériennes, si vous n'avez pas les coordonnées pour frapper les bonnes cibles, il n'y a pas de différence. Mais en avoir des troupes au sol cette fois-ci, je pense que c'est beaucoup. Il faut savoir rappeler que c'est 500 soldats qui sont au sol. C'est pas un bataillon. Donc, 500 soldats qui sont au sol, c'est aussi une approche beaucoup plus symbolique. Et que, logiquement, les risques aussi de cette troupe sont un peu amoindris aujourd'hui parce que les capacités de nuisance de l'État islamique, de Daesh, ont été suffisamment entamées.
Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant? Je parle surtout de la ville de Raqqa. L'inquiétude, c'est qu'on se retrouve dans la même situation que Mossoul en Irak.
Oui, mais écoutez, ça, c'est le propre des guerres asymétriques. L'ennemi est furtif et il n'est pas clairement identifiable. Par l'ennemi, je veux dire l'ennemi des États-Unis là, et de la coalition. L'État islamique, quand on en parle, ce n'est pas des combattants clairement identifiés qu'on pourrait justement séparer des bons, des vilains des bons. C'est beaucoup plus compliqué, plus difficile que ça. Alors, il s'ensuit donc un processus de stabilisation et de fortification de la ville. Donc, il se pourrait bien que les Américains, une fois que la ville soit tombée, pour éviter le scénario de Mossoul, se retirent ou restent au niveau plus politique que militaire.
Serge Banyongen de l'Université d'Ottawa.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Lionel Gaïma, assisté de Sims. Tieng Wang était à la console, présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique, juste derrière moi. Retrouvez donc Tatiana Mosso dans Washington Forum. L'émission de ce jour porte sur les massacres dans le Kasaï en RDC. Bonne nuit.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.